Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Chaque année désormais, elle accompagne nos étés, s'invite à la plage, au festival, au repas de famille, au concert, aux fêtes. La nuit, le jour, elle s'invite aussi aux 20h et à la une des journaux, la canicule qui nous pousse au ralentissement, une torpeur que l'on pourrait presque apprécier si elle n'était pas sans danger. Malaise, déshydratation, fatigue, 15 000 morts, faut-il le rappeler, en France en 2003. Et c'est dans les grandes villes qu'on étouffe le plus. À Bordeaux, Lyon, Paris, il peut faire en centre-ville jusqu'à 8 degrés de plus que dans la périphérie. C'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Alors à moins de fuir la ville l'été, ce que tout le monde ne peut pas se permettre, comment apprendre à vivre avec la canicule et comment peut-être inventer une ville moins vulnérable où la chaleur pourrait circuler au lieu de rester prisonnière? De nombreux dispositifs se mettent en place et il y a urgence. En 2050, 2 habitants sur 3 vivront dans une métropole. Canicule, comment rafraîchir les villes? C'est la discussion que nous aurons ce soir jusqu'à 19h dans le Grain à Moudre d'été. Et ils sont 3 invités ce soir. Amandine Crambe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieure urbaniste à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. L'ADEME qui donc propose de la recherche, des conseils en politique publique et de l'accompagnement au changement. Et puis vous travailler particulièrement sur la question des villes durables au niveau national et international. Notre deuxième invité est au téléphone, il s'agit de Thierry Pacaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur la question urbaine, je n'en citerai que 2. Un philosophe en ville, introduction à la philosophie de l'urbain, c'était chez Infolio en 2016, et puis repenser l'urbanisme chez Infolio également en 2017. Et puis notre troisième invité est en duplex depuis les studios de France Bleu Aix-en-Provence, que nous remercions au passage. Il s'agit de Anne Giraud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'Agence parisienne du climat, l'APC. L'APC qui est donc chargée de mettre en œuvre le plan climat de la ville de Paris. Alors Thierry Pacaud, je voulais commencer avec vous dans cet ouvrage que j'ai cité, Un philosophe en ville. Vous expliquez que la question des saisons, et en particulier la question de l'été, est un sujet qui jusqu'à présent a été sous-traité et même ignoré en ville. Vous écrivez « Qui s'intéresse à l'été en ville ?» C'était en 2016. Est-ce qu'on pourrait dire désormais qu'avec avec la canicule, on est enfin en train de penser la question des saisons et en particulier de l'été en ville?
C'est-à-dire que plus généralement, en fait, on a laissé la saison et les rythmes à l'écart de la pensée urbanistique. Et évidemment, c'est tout à fait fâcheux. C'est pour ça que depuis très très longtemps, je milite sans aucun succès pour la chronotopie, c'est-à-dire pour essayer de ménager les espaces urbains à partir de leurs usages temporalisés. Parce que justement, le jour, c'est pas la nuit, on va en parler pour la chaleur, bien sûr, l'été, c'est pas l'hiver, le mercredi, c'est pas le dimanche, etc. On aménage, et on ne ménage pas, on aménage les villes de la même manière, comme vous l'avez très bien dit, à Bordeaux, à Perpignan ou à Lille, indépendamment de la saison. Or, les Romains avaient, les premiers, réfléchi sur les 4 saisons, et puis ils avaient montré aussi que d'autres cultures avaient d'autres saisons. Par exemple, le peuple Sami en a 8, les Inuits en ont 6, en Inde il y a 6 saisons, et puis si on va sous les tropiques, il y a 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Donc tout ça est excessivement important. Par contre, on va faire les mêmes villes avec les mêmes autoroutes, les mêmes centres commerciaux, et puis évidemment ce truc terrible que l'ADEME, j'espère, va dénoncer, qui est l'air conditionné.
On va parler effectivement de l'air conditionné. Amandine Crambe, vous me disiez juste avant qu'on rentre dans ce studio que pour la première fois, alors vous avez souvent des demandes d'interview en moment de canicule, mais cette année, cet été, pour la première fois, les médias, les journalistes s'intéressent à la question de l'impact de la canicule sur les villes.
Oui, effectivement, par rapport à d'habitude où c'était un constat, ces effets de canicule, ces effets de chaleur et de surchauffe urbaine, là, on voit vraiment qu'il y a un questionnement, mais si c'était pas les formes urbaines qui étaient en fait le problème. Et c'est intéressant qu'enfin on s'intéresse à la forme de la ville et à son impact, l'impact de cette forme-là, de son aménagement sur le climat urbain. Et là, on le sait, hein, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. C'est des phénomènes qui existent et qui sont provoqués par l'ensemble de ces aménagements, que ce soit sur les bâtiments, sur les matériaux, sur les équipements. Hein, Thierry Panco en parlait aussi donc de la climatisation et aussi sur l'absence en fait de choses dans la ville qui sont la nature, la végétation, l'eau, le sol perméable. C'est des impacts aujourd'hui sur le réchauffement et sur la surchauffe urbaine.
Alors, îlot de chaleur, on a prononcé le terme et c'est vrai qu'il s'est imposé dans le débat public depuis quelques jours. Est-ce que vous pourriez peut-être nous redonner une définition de ce qu'on entend exactement par phénomène d'îlot de chaleur ?
Alors, l'îlot de chaleur, c'est un phénomène qui s'explique par la différence de température de l'air entre une zone urbaine et une zone périphérique, rurale ou juste périphérique. Et donc c'est ce phénomène-là où on voit vraiment que il peut y avoir jusqu'à 10 degrés de différence. Un îlot de chaleur, ça peut être jusqu'à 10 degrés de différence, voire 12 maintenant aujourd'hui avec ces temps de canicule, entre le centre-ville et sa périphérie.
Anne Giraud, pour terminer le tour de table, sur cette question de la prise en compte un peu nouvelle, on va dire, des questions à la fois de l'été et en particulier des canicules sur les zones urbaines.
Oui, alors effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la première année ou la deuxième année qu'on commence à considérer que avoir chaud en été, comme on l'a depuis 2 ans, c'est quand même un petit peu étonnant et que ça met en cause la santé des personnes et la possibilité de vivre en ville. Donc ces îlots de chaleur urbains et ce phénomène de canicule, la première chose sur laquelle on doit réfléchir, c'est comment traiter la situation d'urgence. Parce que ces îlots de chaleur urbains, ils demandent de prendre soin des personnes et ils demandent aussi de travailler dans le long terme. Pour l'instant, on est face, en ville comme à Paris, à essayer de résoudre les questions des personnes qui sont en difficulté de santé, qui sont isolées et qui doivent trouver facilement un endroit où ils peuvent se rafraîchir. Parce que le danger, c'est de rester à un endroit chaud et de ne pas pouvoir faire baisser sa température. Donc la situation qu'on a actuellement et les propositions qui sont faites aux Parisiens, c'est des parcours et d'identifier des lieux de fraîcheur, des zones de fraîcheur dans lesquelles ils peuvent se rendre. Alors d'ici 2020, on espère que ça soit pas à plus de 7 minutes de chaque Parisien où ils pourront se rendre dans la journée ou dans la nuit pour pouvoir trouver un petit peu de répit dans ces îlots de chaleur. C'est une première mesure qui permet de répondre à l'urgence. Après, il y a d'autres mesures qui doivent progressivement, d'ici 2050, c'est ce à quoi nous engage le plan climat, transformer la ville. Mais transformer une ville qui est construite, ça se fait pas à pas et en prenant les choses dans le bon sens.
Anne Giraud, vous avez parlé des termes d'urgence, de danger. Est-ce que ça veut dire, en termes de politique publique et de manière d'aborder la ville, qu'il faut désormais considérer la canicule comme un risque avec lequel apprendre à vivre? Un risque peut-être presque au même titre que, je ne sais pas, le risque attentat, le risque d'épidémie, le risque d'inondation.
Oui, c'est un risque. Alors, heureusement, on a beaucoup progressé depuis 2003 et je pense, comme ça a été dit tout à l'heure l'émission, il n'y aura plus, je pense, plus les 15 000 morts qu'on a connues en 2003 puisqu'on était face à un phénomène complètement inattendu. Maintenant, il y a un certain nombre de dispositifs comme, par exemple, des fichiers qui permettent de prendre contact avec des personnes qu'on sait être en danger ou potentiellement à risque et qu'on appelle systématiquement pour vérifier qu'elles vont bien. Il y a des lieux de fraîcheur. Il y a des parcours de fraîcheur. Donc tout ça, ça progressivement, ça évite que ces risques se produisent. Globalement, à la ville de Paris, on est engagé dans une stratégie d'adaptation qui est déjà engagée depuis plusieurs années, mais aussi dans une problématique de résilience. Parce que finalement, quand en ville, on a des risques, ça peut être les risques climatiques comme les risques d'attentats, ce qui nous permet de faire face à ces risques, c'est aussi d'avoir une société dans laquelle il y a plus de solidarité et plus de bienveillance. Et tous les systèmes techniques ne pourront jamais remplacer le fait qu'on prenne soin de la personne qui vit à côté de soi, qui est peut-être en difficulté. Et donc c'est aussi la réflexion qui est en cours au niveau de la ville et de ses différentes instances et des parties prenantes de pouvoir mettre en place une stratégie et des outils très concrets qui permettent d'assurer cette bienveillance et cette solidarité dans laquelle on a besoin de vivre dans des villes où il se passe des choses depuis quelques années qu'on aurait difficilement imaginées dans la décennie précédente.
Là, on est au cœur d'un quartier béton-bitume des années 70 et aujourd'hui, c'est des quartiers qui sont difficilement vivables quand la chaleur monte.
Alors, pour abaisser la température ambiante de 2 degrés, la ville a repensé la rue avec un bitume blanc, explication du vice-président de la métropole de Lyon en charge du développement durable.
Il réverbère la chaleur, il en emmagasine moins. Quand le bitume de la rue est à 50-60, celui-ci sera à 30-40. Ce qui fait une différence considérable quand même.
On a beaucoup de soleil dans le sud de la Californie, il chauffe la surface de la route toute la journée. Les toits, les trottoirs, tout ce qui est construit en dur. Avec cet enduit, la chaleur et la lumière du soleil sont repoussées au lieu d'être absorbées. Alors en fin de journée, à l'heure où les gens rentrent chez eux, la rue peut être 6 degrés plus fraîche qu'avant, ce qui veut dire moins de chaleur pour tous les immeubles qui sont autour.
Des températures records. Le mercure flirte avec les 40 degrés. De mémoire de japonais, on n'a jamais connu ça. Tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. Ici, au sud de la capitale, les rues bitumées sont aspergées d'eau pour faire descendre le thermomètre.
La végétalisation des quartiers est devenue une priorité, comme ici dans la nouvelle zone de Clichy-Batignolles, au nord-ouest de Paris. Les plantes poussent même sur les parois.
Ça, c'est un mur végétal qui est un bon isolant pour les bâtiments, qui est aussi un élément de biodiversité très intéressante. Là, vous voyez, il y a une toile d'araignée, ça veut dire qu'on a plein de petites faunes qui se développent. Et en même temps, c'est bien plus frais qu'un simple mur en béton.
De même, les toits terrasses ont été recouverts d'une bonne épaisseur de terre dans laquelle ont été plantés des arbustes.
Quand ils ouvrent leurs fenêtres pour sortir, eh bien ils ont, surtout en période de canicule comme ça, en tout cas moins chaud que les autres, c'est-à-dire là, il y a une fraîcheur qui est liée à la végétalisation de ces toits.
Alors, quelques exemples de politique de la ville face à la canicule, c'était à Lyon, à Los Angeles, à Tokyo et à Clichy, repeindre des façades en blanc, arroser le bitume, végétaliser les façades. Thierry Paco, est-ce qu'on est là dans ce qu'on pourrait dire des améliorations à la marge qui changent peut-être un petit peu le quotidien, mais est-ce qu'on s'attaque fondamentalement au problème ?
Non, enfin c'est des informations tout à fait précieuses, bien sûr, et je ne peux que les encourager, mais c'est d'abord des recettes connues depuis très très longtemps. Je citerai quelques exemples. En 1864, Élisée Reclus, donc le célèbre géographe anarchiste, écrivait « Les villes d'hiver et la Méditerranée ». C'est un texte très peu connu dans lequel il évoquait justement la possibilité de l'instinct de saison, disait-il, et le nomadisme d'hiver. Alors, vraiment, il préconisait qu'on aille l'hiver là où c'était un peu plus chaud et l'été là où c'était un peu plus frais. On va pas évidemment déménager tout Paris ou Lyon ou Bordeaux, mais il y avait donc cette espèce de prise en considération. Et il dénonçait déjà le plan en damier comme étant une mauvaise chose pour la chaleur, de même que la densité. En fait, le vrai sujet, c'est celui de la densité urbaine et celui des gratte-ciels, qui sont excessivement nuisibles à la qualité de la vie quotidienne dans les villes. Et là, évidemment, on est loin de pouvoir imaginer d'autres formes urbaines et surtout une autre densité. C'est toujours, je suis très très surpris que ce sujet, qui est lié évidemment à l'économique, qui est lié à la spéculation foncière et immobilière, ne soit pas plus fréquemment marqué. Dans les travaux que vous avez mentionnés pour Los Angeles, qui datent déjà d'une vingtaine d'années, il y avait cette idée de peindre en blanc l'avenue de Jordan, etc. Tout ça partait d'une réflexion urbaine contre la surdensité, contre la surpopulation des villes. Et évidemment, à Paris, en ce moment, a été votée au début juillet par le Conseil de Paris la création de 6 nouveaux gratte-ciels à Porte de Bercy. Alors d'un côté, on a un discours tout à fait sympathique avec les mots-clés habituels, résilience, développement durable, etc. Et de l'autre côté, on ne fait pas ça. Je vous signale quand même que le gouvernement, et la droite comme la gauche, est partisan de l'aménagement d'un grand centre commercial au triangle de Gonesse, avec des immenses parkings. Voilà une absurdité, non pas seulement environnementale, mais climatique.
Anne Giraud, sur ces questions.
Alors, la stratégie d'adaptation et la rénovation énergétique du parc bâti, qui a été votée dans le cadre du plan climat, nous donne quand même des objectifs clairs. et qu'on va mettre en place pas à pas. Tout ce qui a été dit dans le reportage sont effectivement des choses qui sont connues. La seule chose maintenant, c'est qu'il faut les mettre en place, il va falloir les accélérer.
Et pardon, par rapport à ce que disait Thierry Pacaud, excusez-moi, par rapport à ce que disait Thierry Pacaud, de dire que bon, c'est peut-être aussi un petit peu des vieilles recettes et qu'on ne met pas l'énergie sur un problème principal de densité, d'urbanisme. Qu'est-ce que alors, vous répondez
Paris
à ça?
Paris est la ville la plus dense d'Europe. Donc c'est là, cette densité-là, cette densité qui existe, c'est une donnée du problème. Sur les cartes, je vais laisser de côté les quartiers évoqués par Thierry tout à l'heure, mais je vais parler de deux quartiers qui sont tout à fait exemplaires et qui font partie en gros des 10% du territoire parisien qui sont en renouvellement urbain profond, qui est le quartier Clichy-Batignolles et à venir celui de Saint-Vincent-de-Paul. Où sur ces deux quartiers, la question du changement climatique, de l'adaptation, de la végétalisation, comme ça a été bien rappelé tout à l'heure, sont au cœur. Finalement, c'est un petit peu la boussole qui a été donnée aux architectes, aux urbanistes, pour arriver à définir ce que seront ces bâtiments, ces usages, ces équipements, et à en faire ce laboratoire. Maintenant, on a face à nous un tissu dense qui est construit. C'est l'essentiel des copropriétés parisiennes, des bâtiments résidentiels qui sont construits et qui va falloir progressivement adapter, transformer. Et dans ce plan-là, c'est effectivement un peu de la haute couture, parce qu'il va falloir aller pas à pas sur différents sujets. Trouver des espaces où on peut encore faire de la végétalisation, travailler sur les toits et faire de ces toits des espaces potentiels de végétalisation. Trouver des espaces où on peut faire circuler de l'eau ou végétaliser les murs, rénover ces bâtiments. Donc là, on est face à un problème qu'on va régler petit à petit. Le plan climat dit qu'on doit rénover l'ensemble du parc bâti parisien d'ici 2050. Donc ça ne va pas se faire dans les deux ans qui viennent. Mais c'est ces facteurs d'accélération qu'on met en place. Et pour cela, il y a effectivement, et là je rejoins ce que disait Thierry Pacaud tout à l'heure, on a un énorme travail à faire auprès des professionnels, des architectes, des urbanistes, parce que c'est un nouveau métier qu'il faut inventer. Et il faut faire adopter aussi des nouvelles pratiques pour montrer que cette question du changement climatique, que ce soit la réduction des émissions, mais aussi l'adaptation, parce qu'on ne reviendra pas au climat précédent. Les deux, plus 2 degrés, on les aura. On va essayer d'éviter d'avoir les plus 5 degrés d'ici la fin de ce siècle. Donc ça, c'est une donnée. Et il faut que les pratiques professionnelles innovent, inventent, travaillent tous ensemble pour qu'à partir sur Paris, désolé de reprendre cet exemple, de ces laboratoires que l'on a en main, des professionnels qui sont déjà mobilisés, petit à petit, pas à pas, progressivement, on travaille sur les différentes perspectives et on arrive à construire une ville qui fait la neutralité carbone, puisque c'est ça qu'on envisage pour 2050.
Et vous parliez de la végétalisation, et c'est peut-être là qu'on va arriver au cœur d'intérêts contradictoires quand on connaît le prix du mètre carré dans des grandes villes, et pas seulement à Paris. Comment est-ce qu'on peut décréter qu'on va créer des espaces pour végétaliser? On va les créer dans quels espaces? Les villes sont déjà très denses. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va détruire des habitations pour installer des parcs, Amandine Crambe?
Moi, je pense qu'il y a aussi un choix et un courage politique à avoir sur ces questions-là. Je rejoins assez Monsieur Pacaud là-dessus, puisqu'on voit. Alors, on parle de quartiers, d'éco-quartiers. Donc là, on prend quelques exemples, mais il y a des choses très simples. Il y a des quartiers dans Paris où il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'arbres. Des fois, c'est juste des solutions assez simples où il faut faire aussi le choix de se dire, bon bah là, j'ai un bâtiment, peut-être une ruine, bah, je vais peut-être le détruire et le laisser vide, et laisser cet espace vide pour aérer un peu la ville, et plutôt que de choisir de céder à la pression foncière et de refaire un bâtiment ou autre chose.
Pression foncière qui est particulièrement forte.
Qui est particulièrement forte. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une question d'équilibre. On sait qu'on est en manque de logement et donc ça y joue aussi, cette pression foncière. Mais peut-être qu'on a beaucoup trop de bureaux, trop d'immeubles de bureaux, justement. Il y a aussi ça, c'est une question de lobby, de taxes par rapport au prix de la construction d'immeubles de bureaux. Et à mon sens, il faut être en capacité de faire des choix et d'avoir et de l'action, en fait, d'avoir une vraie volonté et pas uniquement des choses qui sont inscrites en disant on va faire ça jusqu'en 2050. Dès aujourd'hui, on peut travailler différemment. On peut redonner de l'espace, redonner de la terre, du sol, des arbres, en fait, de façon très facile. facile. Et il y a des villes qui se sont engagées, par exemple Rennes s'est engagée à avoir tous ses habitants ne seront à moins de 5 minutes à pied d'un espace vert. Des fois, c'est un micro-espace vert, mais ça permet déjà de travailler au rafraîchissement urbain.
Anne Giraud, je crois que vous vouliez réagir.
Oui. Alors, il y a un plan de végétalisation. Il y a un objectif d'avoir 100 hectares végétalisés d'ici la fin de la mandature. On y va progressivement, mais on y va dans le bon sens. Donc, tous les espaces qui peuvent être végétalisés le sont. Alors, effectivement, c'est compliqué dans une ville aussi dense qu'en Paris, mais c'est un objectif qui est donné dans le plan local d'urbanisme et dans les actions qui sont mises en place pour pouvoir repérer ces espaces et faire de la végétalisation là où on peut végétaliser. Et les 100 hectares qui se font les uns après les autres seront atteints. Et il y a un projet de planter plus de 20 000 arbres d'ici 2020 et d'en planter encore plus de 20 000 d'ici 2030. Donc c'est bien un objectif parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper si on veut continuer à vivre paisiblement en ville. Et puis, je rajoute un petit exemple aussi qui est assez intéressant de la stratégie, c'est de travailler sur les cours d'école. Il y a plus de 600 écoles dans Paris, 663 je crois, et des espaces cours d'école qui sont très bitumineux, si je puis dire. Et on s'est aperçu que ces périodes de canicule, elles commençaient maintenant début juin et elles terminaient fin septembre. Donc c'était très compliqué pour les enfants qui ne pouvaient parfois, dans les deux dernières années, pas sortir pendant les récréations tellement il faisait chaud. Donc actuellement, on est en train d'expérimenter un projet qui s'appelle Oasis pour travailler déjà sur 3 écoles pour expérimenter l'enlever le bitume dans certains espaces, de végétaliser ces cours. Ce qui permettra aux enfants de voir une autre façon d'être dans ces cours et d'être paisible et en bonne santé pendant les périodes de canicule. Mais c'est aussi un espace de refuge potentiel pour les personnes en cas d'épisode comme on connaît maintenant. Et progressivement, ces technologies qui vont utiliser celles qui sont connues déjà depuis longtemps, expérimentées, vont pouvoir se déployer sur Paris pour pouvoir utiliser ces cours d'école comme des lieux de rafraîchissement pour leur entourage et aussi pour les enfants et pour les Parisiens qui sont autour.
Et je précise qu'il n'y a pas qu'à Paris des initiatives de ce type naissent pour débitumiser une partie des villes, en particulier des écoles. Est-ce qu'il n'y a pas un impensé quelque part sur le bitume et sur le béton en ville? On nous dit aujourd'hui que les métropoles françaises sont particulièrement minérales, donc ça veut dire qu'elles manquent de végétaux. Thierry Pacot, est-ce qu'il n'est pas un peu étonnant qu'en 2018 seulement, on se rende compte que nos villes sont... Il y a trop de béton dans nos villes.
Non, parce que ça a déjà été dénoncé depuis longtemps. Mais là où vous avez raison, c'est que le bitume, enfin, ou l'asphalte, arrive avec l'automobile. On a oublié ça, bien sûr, mais il y avait des mouvements associatifs contre la poussière en ville qui étaient soulevés par les automobiles. C'est comme ça qu'on a exigé dans les années 20 de pouvoir asphalter. Et puis ensuite, et bien évidemment, il y a eu un contre-coup, si je puis dire. C'est né à Berkeley, à San Francisco, en 1974, où pour la première fois, on va désasphalter le parking des professeurs d'université afin de rendre la terre à son contact avec l'air, j'allais dire. Et évidemment, c'est très très mal pris parce qu'on attaque là le symbole de la liberté individuelle qui est l'automobile. Alors c'est pour ça que je pense que on ne peut pas d'un côté dire on va prendre telle et telle mesure, on va peindre les toits en blanc, ce qui serait une très bonne initiative bien sûr, mais et en même temps bien continuer à avoir une politique territoriale. Alors là, je sors de la ville et simplement des recettes qu'on pourrait appliquer ici ou là pour avoir une pensée générale de l'établissement urbain. Où devons-nous plutôt résider? Voilà, c'est une vraie question de fond et ça va évidemment avec des modes de vie. Si on avait développé, je rêve un peu, si on avait développé le télétravail massivement comme on l'avait espéré dans les années 70, d'ailleurs il y a 50 ans, il est bien évident qu'on n'aurait pas connu les victimes aussi importantes de la canicule de 2003. Donc on le voit bien, c'est un tout la pensée. C'est pour ça que l'écologie est passionnante. C'est que l'écologie, c'est toujours processuel, interrelationnel et transversal. Et donc, on ne peut pas simplement penser le climat à partir d'un élu à la question climatique. Non, le climat, il se résout avec l'élu qui s'occupe des parcs et jardins, l'élu qui s'occupe de la scolarité, l'élu qui s'occupe de l'habitat. Donc là, on s'aperçoit que tout d'un coup, on est dans quelque chose qui est en permanence en interférence. Et donc, il nous faut penser la ville comme étant une unité d'écosystème, étant une espèce de super écosystème d'écosystème. Et pour ça, évidemment, on ne peut pas simplement dire, eh bien, là, on va faire une petite mesure sympa de végétalisation, parce que, comme ça a été très justement dit tout à l'heure, c'est un coût énergétique. Alors, je viens de lire une étude sur les toits cultivables à Bruxelles. Le résultat, il est très simple, et tiens, en un mot, ce n'est que pour une agriculture high-tech.
Amandine Crambe, est-ce que vous partagez ce constat de Thierry Pacaud, qu'on manque aujourd'hui d'une pensée globale pour penser l'ensemble de l'adaptation de la ville à la canicule, et qu'il ne s'agit pas juste de faire des mesures très spécifiques, mais de penser l'ensemble des politiques publiques et de transport et d'urbanisme et de santé
Complètement, hein, tout est lié, tout est transversal. On parle d'écosystème, on parle même de métabolisme. Et on le voit, hein, dans un écosystème ou un métabolisme, s'il y a une partie... un organe qui commence à défaillir, c'est l'ensemble qui est défaillant.
Et donc, mais c'est une chose d'en faire le constat, et c'en est une autre de mettre une politique publique qui vraiment va prendre en compte l'ensemble dans ces politiques, de vraiment faire de la transversalité.
Mais ça c'est vraiment un gros problème, et surtout on le voit dans les projets urbains et dans la construction ou dans la rénovation de la ville, c'est les questions des gouvernances. Et il y a plein de freins quand les gouvernances, les gens qui n'arrivent pas à travailler ensemble, aussi, on parlait du côté territorial, mais on a ces questions politiques, hein, entre un élu de la ville de Paris, on prend Paris parce qu'on parlait, mais un élu d'une ville, puis l'élu de la métropole, le président de la métropole ou de la région, etc., où les politiques ne sont pas alignées, et l'impact, on le voit sur la qualité des projets et sur les grandes décisions à prendre. On prenait l'exemple sur la mobilité, hein. On peut parler de la question des quais de Seine, où là ça a été le branle-bas de combat de fermer les quais de Seine et puis d'essayer de sortir la voiture de la ville. Et à l'inverse, il y a au niveau de la région où ça va être une autre question sur les transports. Et en fait, il faut juste avoir une réflexion globale de transport et pas de mesures qui ont un impact des fois que local.
France Culture. Du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Rien que ce week-end, 300 bouches à incendie ont été vandalisées en Île-de-France, créant ces très grands geysers. Les jeunes les font pour se rafraîchir. Certains, regardez, installent même des piscines en pleine rue. Ça peut durer des heures. Cette nuit d'ailleurs, à la plaine Saint-Denis, les vannes étaient encore ouvertes. Les habitants sont excédés.
Ça fait un peu plus d'une semaine que ça dure, parce que tous les jours, une bande de jeunes viennent avec une clé à molette et ouvrent les bouches à incendie.
Pour eux, c'est marrant. Il y a de l'eau qui sort, ils se rafraîchissent, sauf que derrière, ça gêne à la voie publique, ça reste aussi du vandalisme.
Sans compter également les inondations de caves et de parkings, ainsi que les risques d'accidents de la route.
C'était un reportage en pleine Saint-Denis de BFM, diffusé l'été dernier, l'été 2017. On a choisi ce son parce qu'il illustre peut-être une tension aussi qui peut arriver en cas de canicule, celle entre les besoins de certains habitants, et puis là on l'entend, le mécontentement avec d'autres habitants, mais il peut y avoir des pratiques qui rentrent en contradiction entre les habitants qui vont avoir des pratiques de, alors on appelle ça le street pooling, hein, la baignade de rue, la baignade sauvage, et puis les politiques publiques qui vont essayer de réguler ça. Est-ce que c'est légitime quand même, Anne Giraud, que les habitants essayent de se créer par eux-mêmes leur propre zone de fraîcheur en ville ?
Alors légitime, je ne sais pas, mais naturel, oui, parce qu'effectivement, quand on arrive à une situation où il fait vraiment trop trop chaud, on dépasse un petit peu les bornes, et c'est ce qu'on a vu arriver l'année dernière. Donc pour essayer de limiter ça, il y a différentes expérimentations justement pour pouvoir prévenir ça et avoir dans des espaces où on peut faire libérer cette eau, mais de manière contrôlée, pour éviter de reproduire cet événement. Ça veut dire qu'il faut, et ça, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas une question technique, c'est une question de société. Ça veut dire que les services techniques, les politiques, les parties prenantes doivent être à l'écoute de ces besoins et prévenir ces événements où, si on n'est pas là pour les prévenir et trouver des dispositifs qui vont permettre de répondre à des choses un petit peu tendues qui peuvent se produire, on a ces risques-là. Donc il faut prévenir ça. Et je pense que ces deux dernières années où on a vu arriver ces phénomènes de canicule et des choses tout à fait inattendues vont nous permettre quand même de réfléchir en disant, l'année prochaine, de toute façon, il va arriver encore de la canicule, puisque on se prépare à avoir le climat de Grenade à Paris d'ici la moitié de ce siècle. Hein. Donc ces épisodes-là, on va les avoir encore. On peut se préparer et trouver collectivement des systèmes qui vont permettre de s'adapter et d'éviter des débordements qui seraient assez catastrophiques. Il faut qu'on arrive à vivre en paix en ville dans cette d'ici 2050, mais enfin d'ici à partir de l'année prochaine, même maintenant quoi.
Thierry Pacaud, quel regard est-ce que vous portez sur ces phénomènes d'appropriation peut-être un peu sauvage parfois des zones de fraîcheur par les habitants dans les villes?
Ah bah moi je trouve ça tout à fait évidemment légitime, comme ça a été dit, bien sûr. Alors après, si y a des excès, qu'on casse une canalisation, ça a été mentionné, on parlait de vandalisme. En même temps, le petit enfant qui est encore en moi de temps en temps réclame cette possibilité de me doucher dans la rue ou de mettre mes pieds dans la fontaine. Je trouve ça très bien. Alors maintenant, il faut bien voir aussi que la ville est une ville très disciplinaire. Hein, j'ai beaucoup écrit sur la place des enfants dans la ville. Alors là, je peux vous dire que je ne peux que les encourager de profiter de la canicule pour enfin essayer de s'approprier quelque chose qu'on leur a toujours refusé, c'est-à-dire le plaisir de déambuler, le plaisir d'être chez eux en ville. La rue, c'est une partie de ma maison. Et le jardin est une politesse de la maison, faut pas l'oublier. Donc, ça a été dit tout à l'heure, je le répète, tant qu'il n'y a pas plus d'amitié avec le fleuve, tant qu'il n'y a pas plus d'arbres plantés, d'espaces verts généralisés, évidemment, la qualité de la vie, et pas seulement la qualité de l'air, n'est pas du tout à son niveau. Et moi, je rêverais, vous voyez, pour ceux qui connaissent Paris, que le parc des expositions de la Porte de Versailles, au lieu d'y faire la Tour Triangle, eh bien, on déménage ce truc plus loin, hors de Paris, et puis que là, on plante des milliers d'arbres. Pas 20 000, pas 50 000. C'était une revendication de la première rencontre internationale des villes à Gand en 1913, multiplier les forêts urbaines. Et c'était lié, ça a été très très bien dit tout à l'heure, avec les écoles. Il faut que toutes les écoles aient une classe de jardinage, avec un jardin scolaire, et que la cour de récréation soit pas cette espèce de terrain de foot nullissime, mais quelque chose qui montre à quel point la nature est en contact avec nous. Et la nature, c'est pas simplement de la verdure, c'est avant tout cette espèce de perception de la rythmique, parce que la nature, elle est vivante, elle dépend de ses rythmes, elle a ses saisons. Et si je joue dans un cadre naturel, eh bien, moi-même, je prends conscience de la saisonnalité. Et pour moi, c'est quelque chose de décisif, parce que, ne l'oublions pas, le mot canicule, en latin, canicula, signifie tout simplement le chien, c'est-à-dire Sirius, hein, c'était un terme d'astrologie, qui désignait l'étoile principale de la constellation du grand chien, qui apparaissait et disparaissait au moment où le soleil était le plus chaud. C'est pour ça qu'on a, par métonymie, associé la vision de cette étoile à la canicule. Mais n'oublions pas non plus que le mot chômage vient du verbe chômer, qui en latin se dit comare, qui signifie le repos imposé à cause de la chaleur. Quand il fait trop chaud, on arrête de travailler. Alors le mot chômage a disparu, ce sens-là maintenant, c'est plutôt celui qui n'est pas employé. Bon, mais n'empêche
d'ailleurs,
que,
vous avez...
il y avait une espèce de connivence entre notre vocabulaire et puis la manière de vivre.
Vous avez parlé tout à l'heure, Thierry Pacaud, de la question de l'adaptation des horaires. Et on peut effectivement se poser la question si l'ensemble du reste du fonctionnement de la société pourrait s'adapter aussi à la ville. Vous avez, l'été, en période de canicule, la ville se couche plus tard, se lève plus tôt. On pourrait aussi imaginer de réhabiliter la sieste. Je dis ça parce que vous avez publié il n'y a pas très longtemps un livre sur la sieste.
Oui, mais là, ça vous... Si vous me tendez la perche, ça va durer des heures, non?
Non, je vais refaire. Il nous reste 10 minutes, je vais faire circuler un petit peu la parole. Je voulais qu'on reste un petit peu encore sur cette question des habitants et peut-être des points de tension ou de contradiction. Il y a aussi un point important qui est celui de la climatisation individuelle, alors aussi dans les bureaux. Et d'ailleurs, à France Culture, en ce moment, nous avons la clim à fond. La climatisation est en augmentation constante chez les habitants. Là aussi, on a un usage qui peut être contradictoire avec l'intérêt général parce que la climatisation bien, produit elle-même de la chaleur extrêmement énergivore. Amandine Cramp, comment est-ce qu'on fait pour concilier cet usage individuel avec une politique globale? Est-ce qu'on va devoir peut-être interdire aux gens d'installer la climatisation?
Alors, interdire, je ne dirais pas ça. En tout cas, on peut les reconnecter avec la tradition aussi. Par exemple, si on prend les exemples des traditions méditerranéennes, il y a des petits gestes de bon sens qu'on a complètement oubliés. Fermer ses fenêtres la journée, mettre des persiennes, donc fermer ses volets. Avoir, bah là encore, hein, on parlait d'avoir des plantes aussi à l'intérieur. Éviter d'utiliser des appareils électriques type en pleine journée de chaleur, des fours, pour faire de la grosse cuisine, de la machine à laver. Ça peut attendre, en fait. Là aussi, c'est une façon d'utiliser avec une temporalité un peu différente. Ça permettrait en plus qu'on ait peut-être moins de pics de problèmes énergétiques. Et pour limiter aussi cette clim, on parlait de la forme des formes urbaines, mais il y a aussi le choix des bâtiments. On a voulu faire des bâtiments qui sont complètement fermés, où l'air ne circule pas. Et en fait, la ventilation naturelle, le choix d'architecture dans les bâtiments, c'est une alternative à la climatisation. On le voit notamment à La Réunion, on a des expérimentations, nous, avec l'ADEME, sur des bâtiments, avec des choix de matériaux qui sont respirants, avec une ventilation naturelle. Et il fait quand même très chaud et très humide à La Réunion, et on arrive à avoir des grands bâtiments, des universités, des bibliothèques sans climatisation, sachant en plus que on se mord un peu la queue avec cette histoire de climatisation, parce que plus on va avoir chaud, plus on va vouloir installer du rafraîchissement. Or, les appareils de climatisation fournissent de la chaleur dans la ville. En fait, il y a une extraction de l'air chaud de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur du bâtiment. Et donc là, ça augmente les questions d'îlots de chaleur urbains. Donc, on a plus chaud, on va vouloir continuer à mettre de la clim. Et c'est vraiment un gros problème, sachant qu'aujourd'hui, il y a une étude, un dossier de l'Agence internationale de l'énergie qui vient de sortir sur ces questions de climatisation. On annonce qu'en 2050, on va avoir... 3 fois, voire 4 fois plus d'appareils de climatisation qui vont consommer beaucoup plus. Et dans les pays, les pays plus chauds qui sont aujourd'hui non équipés de climatisation. Donc on arrive vraiment vers un problème énergétique et d'augmentation de ces questions de surchauffe urbaine.
Et puis la climatisation pose aussi une question d'égalité, puisque comme vous le dites, si certains ont les moyens d'installer la clim et que la clim provoque de la chaleur dans les immeubles et environnements, ceux qui ne peuvent pas installer la clim vont le payer quelque part. Anne Giraud, comment est-ce qu'on fait aussi pour penser un accès égal de tous à une ville plus fraîche et plus agréable ?
Alors là, c'est une grande question. Je pense que ce qui a été dit tout à l'heure montre que des villes qui ont été construites pour un climat du début de ce siècle vont devoir adopter des pratiques méditerranéennes. À Paris, il y a encore beaucoup de bâtiments qui n'ont pas de volets. On a des toitures en zinc qui sont extrêmement, qui chauffent énormément les derniers étages des immeubles. Donc toute cette pratique-là, il va falloir les mettre en place petit à petit. On ne pourra pas climatiser pour l'instant toute la ville. On a la chance d'avoir un réseau de froid avec Climespace qui effectivement fournit plutôt les immeubles tertiaires. Pour le résidentiel, il faut effectivement progressivement trouver des solutions qui soit pourront se raccorder à ce réseau de froid qui est plutôt efficace en termes énergétiques, soit isoler les bâtiments dans une perspective d'adaptation au changement climatique et à ces fameuses canicules qui progressivement permettront d'éviter une multiplication de la climatisation qui n'est pas soutenable pour des raisons énergétiques, économiques, qui ne pourra pas être étendue à toute la ville.
Vous avez parlé
la végétalisation et la préparation de territoires à ces questions-là.
Vous avez parlé de pratiques méditerranéennes de la ville. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi, puisqu'on parlait des bâtiments, qu'à l'avenir, on ait des toits plats avec des grandes terrasses et qu'on pourrait, par exemple, dormir dehors en cas de forte chaleur, comme ça se pratique dans certaines villes du sud de la Méditerranée ?
Peut-être, ça pourrait être sympathique. On peut déjà aller dans les parcs qui restent ouverts la nuit en ce moment pour pouvoir s'y rafraîchir. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a un grand enjeu de pouvoir transformer le métier de l'architecte, des bureaux d'études qui doivent maintenant mettre cette boussole du changement climatique au cœur de la conception de la ville, de leur réflexion pour qu'on trouve les matériaux qui vont bien, les processus qui vont bien, etc. Pour qu'on puisse puisse non seulement construire du neuf. Je pense que sur le neuf, globalement, on doit y arriver. L'enjeu pour les villes construites, comme l'essentiel des villes françaises, c'est de travailler sur la rénovation énergétique du parc bâti. Parce que cela, on va pas les démolir. Il va falloir progressivement les rénover avec des pratiques et des technologies qui restent pour l'essentiel quand même à inventer et dont le coût n'est pas négligeable non plus.
Thierry Paco, quand on parle d'adapter les formes de la ville, est-ce qu'il faut imaginer une transformation urbaine, peut-être d'une ampleur de celle qui avait été menée au XIXe siècle ? Alors, on est encore sur l'exemple parisien, mais donc menée par le baron Haussmann dans Paris. C'est de cette ampleur-là qu'on parle pour que vraiment les choses soient efficaces ?
Oui, ça, je pense que c'est, ça ne fait aucun doute. Alors, ce ne sera pas du tout les mêmes présupposés philosophiques qu'Haussmann, mais c'est certain, évidemment, que c'est d'une très, très grande ampleur. Il y a des choses en même temps très simples. Moi, j'ai visité récemment des immeubles qui venaient d'être livrés, où les appartements n'étaient pas traversants. Bon, et pourquoi ? Bah, parce que ces appartements étaient équipés de climatiseurs. Donc, vous voyez, ça, c'était très justement dit. Mais là, il faut peut-être des coercitions, je ne sais pas lesquelles. Moi, je suis assez rétif à toute contrainte. Mais à partir du moment où les industriels du BTP ou les architectes qui exécutent leurs ordres, etc., ne choisissent pas les matériaux qu'on connaît, qui sont de très grande qualité par rapport aux modifications climatiques, ne réfléchissent pas à l'orientation du bâtiment, ne réfléchissent pas à la taille des ouvertures, tout ça évidemment est totalement fâcheux. Alors maintenant au niveau de la grande ville, on ne l'a pas encore mentionné, mais il faut réhabiliter les arcades, il faut généraliser les stores des magasins, il faut peut-être inventer ce que Charles Fourier avait imaginé, les rues-galeries, qui permettait justement de vivre toujours sans les intempéries. Alors, tout ça, et ça donne des formes urbaines magnifiques. Hein. Allez à Bologne, vous verrez à quel point les 50 kilomètres d'arcade sont un enchantement. Mais pour ça, ça veut dire peut-être qu'on redevient pédestre, on redevient piéton, on laisse sa bagnole, et puis peut-être qu'on a une autre temporalité. J'insiste lourdement là-dessus.
Vous parlez
des arcades. Le mot magique qu'on n'a pas encore mentionné, c'est acclimatation. Il faut s'acclimater. En 1982, a été créée la première association des villes d'hiver. On n'a pas l'équivalent pour les villes d'été. Et les villes d'hiver, elles affrontaient, Chicago ou Montréal, pour donner les plus connues, affrontaient des froids de moins 40 degrés et puis un enneigement massif. Alors, ils ont créé ce club pour échanger, justement, leur manière de faire, leurs pratiques, leurs usages, et puis trouver des solutions. Eh bien, il nous faut faire la même chose aujourd'hui, considérer que nous devons nous acclimater et la solution ne sera pas que technique. Hein, on annonce pour 2030 5 milliards de climatiseurs. Et Amandine l'a très très justement dit, ça va justifier, pour certains, une politique du nucléaire. Parce qu'il faudra bien d'électricité pour faire marcher ces ventilateurs.
Thierry Paco, pour terminer, je voudrais citer un extrait de votre livre « Un philosophe dans la ville ». Vous citez Gaston Bachelard, qui parle de l'été dans la ville et qui dit « Il est bien agréable de se vêtir sans, au préalable, écouter la météo à la radio ou regarder par la fenêtre l'état du ciel. C'est une sensation de bien-être qui est d'autant plus appréciable qu'elle semble rendre chacun plus joyeuse, qu'il faut essayer de continuer à penser la politique de la ville avec cette joyeuseté, alors que c'est vrai qu'on est quand même sur des questions de risque qui peuvent vite devenir anxiogènes. Amandine Cramp, dernier petit mot.
Oui, il faut qu'on prenne vraiment cette question de chaleur et de surcharge urbaine sérieusement, et de la forme, parce qu'il y a un impact sur la santé qui est réel. C'est un peu, on va dire, sans être non plus alarmiste, mais il y a une urgence, en fait, si on ne veut pas avoir les multiplications aussi d'épisodes de pollution, des maladies chroniques, tout ce qui va avoir sur les défaillances dues à la chaleur. Et donc, c'est une urgence qu'il faut absolument prendre en compte.
Merci beaucoup, merci à tous les trois, Amandine Cramp, Thierry Paco et Anne Giraud d'avoir participé à cette discussion. Un grand merci au studio de France Bleu à Aix-en-Provence d'avoir assuré le duplex du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Isolt Sicard, Laila Saïdi, Copelia Ménardi, Imen Mélaz et Marine Le Rouge. Réalisation Alexandra Longuet, prise de son Bruno Gagnère-Fontanil.